Torréfaction est un podcast Geekzone rendu possible par le généreux soutien de nos abonnés Patreon. Si vous aussi vous souhaitez soutenir la production de nos podcasts, rendez-vous sur patreon.com/geekzonefr. Merci. Bonjour Geekzone et bienvenue dans ce 287e épisode de Torréfaction. On se retrouve comme toutes les semaines le jeudi soir pour les abonnés Patreon et le vendredi matin pour les autres avec une petite sélection de l'actu de la semaine. L'actu en tout cas qui nous a marqué ou qui nous a intéressé ou qui nous a énervé en ce qui concerne CAF en particulier cette semaine. Salut CAF.
Bonjour, ça va? Je suis hyper calme. Tout va bien. J'ai vidé mon sac avant qu'on commence à enregistrer.
Ce que j'allais dire, on en parlait un petit peu avant d'enregistrer le podcast.
Et puis après on s'est dit putain, on fait déjà le podcast là. Calmons-nous. Gardons-en pour après.
Je t'ai senti très tendu. Bref.
Ouais, il y a deux, trois sujets qui m'énervent et j'aurais préféré rester sur ma colline du crack, tu vois, tranquillement dans les jeux du moment, là, parce qu'ils m'ont tous saoulé. Oui, le petit Balatro, entre autres, hein, parce que Balatro, il me malmène. C'est que, en même temps, c'est le principe de la drogue, hein, ça te vend du plaisir, puis finalement, ça te fait souffrir.
Et ça cartonne.
Mais j'ai un peu de mal. Ouais, ils en ont vendu 500 000 en 10 jours pour un petit jeu de cartes à 13 balles. Je trouve que c'est pas mal.
Ouais.
Surtout qu'il s'est fait bannir déjà du store Switch. Donc, c'est sans les chiffres Switch qui, à mon avis, vous devrez revenir un jour, on y croit.
Pourquoi il s'est fait bannir du store Switch?
Alors, c'est une
jeu
histoire...
d'argent, tout ça
ou... Ouais, c'est une histoire très triste, parce qu'en fait, comme de nombreuses choses dont on va parler dans ce podcast, il y a des décisions qui sont prises par des gens avec des costards cravates dans des bureaux qui comprennent absolument rien au sujet. Mm-hmm. Et là, il y a des mecs, ils ont vu des cartes, ils ont fait « Oh là là, c'est des jeux d'argent, ça parle de poker !» Et du coup, ils ont passé le jeu en 18+.
Ouais, je sais qu'ils s'étaient déjà pas mal battus, en fait, pour pouvoir sortir le jeu peinard et pas avoir de soucis à la base. Il y a un côté imagerie, en fait, je sais plus qui en parlait sur le Discord, mais c'est vrai que c'est, il y a un côté imagerie avec des cartes à jouer qui fait que quand tu as une addiction par rapport à ça, ça peut être problématique. Donc, je peux à la limite comprendre.
Ouais.
Effectivement, ça veut dire qu'ils ont pas joué au jeu, quoi.
Mais j'ai du mal à comprendre. Enfin, je veux dire, c'est quoi le problème de l'imagerie? Tu vois une photo de femme et si t'as des problèmes de sexe, tu deviens complètement taré.
Non, enfin, c'est que tu vois des cartes à jouer, tu fais des mains de poker et donc forcément, ça titille des récepteurs dans ton cerveau qui font que ça génère de la dopamine et que ça entretient.
Alors, ça pourrait être un problème s'ils te demandaient de l'argent, mais à aucun moment.
On est d'accord.
Enfin, le jeu n'a rien à voir avec le poker.
Je suis pas en train d'excuser, hein. J'explique la logique derrière le truc.
J'ai vu des réactions
complètement débiles, mais.
Ouais. Mais en fait, parce qu'en fait, j'ai du mal, enfin là, et c'est vraiment moi le problème du coup, c'est que j'ai vraiment du mal à comprendre la réaction des gens par rapport à ça, en fait.
Ouais.
Dans la mesure où, je sais pas, t'as eu un accident de voiture, t'approches plus une voiture, je comprends qu'il y a un trauma, tu vois.
Ouais.
Il y a un moment, enfin, j'ai eu un accident de scooter, je suis remonté sur un scooter.
Mais on parle d'addiction, hein, donc c'est pas toujours très rationnel.
C'est vrai, c'est vrai, mais je suis bien d'accord. Mais en tout cas, sachez-le, les gars, il y a que des high scores, en fait, hein. C'est les mêmes principes qu'un shoot'em up.
Tout à fait.
En revanche, c'est la même déception que les shoot'em up, hein. C'est pas, ben, voilà, parce que le jeu, de temps en temps, vous vous dites, ah, j'ai construit un truc, là, mon deck, il est
ben,
incroyable. Et puis voilà, exactement, tu connais, hein. Enfin, t'arrives sur un boss, il fait genre, alors, t'as mis que des cœurs dans ton jeu? On va faire un truc, les cœurs apportent pas de points. Bisous.
C'est que j'y joue pas beaucoup parce que j'ai pas encore vraiment beaucoup l'occasion de m'y plonger, mais j'ai toujours pas fini un run, hein, donc je suis pas très fier. Non.
Ouais, bah je préfère pas parler des choses qui fâchent. J'en ai foiré 4 cette semaine sur différents decks et je le vis pas très très bien, sachant qu'il y en a un en particulier, non il y en a même 2 où c'était free win, hein. Et le jeu a fait genre non, le boss de fin là, tu vois, il est juste pour te faire chier. Alors après, je suis peut-être pas forcément très malin non plus, mais il y a un moment où vraiment là je vois pas comment j'étais censé le gagner, mais un autre problème. Bref, Balatro, colline du crack, c'est parfait, continuez. Il y a aussi Helldivers 2 qui continue de cartonner.
Ouais.
Ma liste Steam, c'est absolument incroyable. Il y a toujours un paquet de bugs, mais ça s'est quand même bien amélioré. Mais bon, ça arrive encore régulièrement qu'on reste coincé dans des mobs, qu'il y a des trucs un peu chelous. Moi, plus j'y joue, plus je me dis qu'ils ont un moteur incroyable pour faire plein d'autres jeux en plus derrière. C'est les mecs, ils peuvent faire des jeux solo avec ce moteur. Quand tu lances le jeu en solo sur la planète, t'as une ambiance incroyable.
Ouais.
Donc voilà, hein, je le rajoute à la liste des jeux auxquels je devais pas jouer avec Last Epoch, évidemment.
Fallait pas y aller.
Voilà. En revanche, je vois les limites du truc. C'est-à-dire que moi, j'ai pas ultra envie de le lancer. En vrai, j'y vais pour aller faire le con avec les potes,
ce qui est le cas
de plein de gens. Le gameplay reste assez limité, même si, donc évidemment, il y a une palanquée de trucs qui vont arriver. Ils vont rajouter les mechas, ils vont rajouter des armes. Là, il y a une première passe de polish sur les armes d'équilibrage. Bon, du coup, ça reste une valeur sûre si vous avez toujours pas craqué et que vous voyez vos potes y jouer et que vous dites qu'est-ce que c'est que cette merde. Ça coûte toujours 30 ou 40 balles. Voilà, c'est pas le pire achat que vous ferez cette année, croyez-moi.
Allez, on va attaquer avec notre conduite et le gaming avec la sortie de Ghost of Tsushima sur PC.
Ouais, qui est annoncé enfin, 4 ans après la version PS5, dans une version Director's Cut qui va sortir sur PC donc en mai, le 16 mai pour être exact, au petit tarif de 60 balles. Bon, sur un jeu qui est bien rentabilisé, on va dire que les mecs se font quand même bien plaisir, mais ils ont apparemment prévu de faire un portage PC ultra propre, avec le support du format 21:9, ça va gérer les conflits triple écran pour avoir des visuels magnifiques dans votre jeu, du DLSS, le FSR, le machin, le DLA, bon bref, tout, vous avez compris, hein, tous les techniques d'upscaling de la planète, et on pourra jouer avec des dialogues japonais, et ça va même faire un truc qui est relativement rare, c'est qu'une partie de l'expérience sur PS5, c'était la gestion de la manette DualSense avec ses retours haptiques, et ben ça sera géré aussi sur PC, donc tu pourras jouer avec ta manette PS5 directement sur PC.
Nice.
Et ça, c'est vraiment une bonne nouvelle, donc ils sont vraiment, vraiment fait chier. Si ça tient toutes les promesses et que vous n'avez toujours pas craqué sur la PS5 ou sur le jeu lui-même, ben ça sera l'occasion de vous plonger dedans. En revanche, je vous confirme que voilà, les avis sur le jeu, ça reste un truc magnifique, etc. Mais c'est un open world, et il y a quand même beaucoup de gens qui ont dit, bah, je me suis quand même bien fait chier très vite et puis finalement j'ai arrêté. Non, c'est un open world, donc tu vois, ça reste clivant. Il y a des gens qui aiment bien rentrer dans le délire, il y a des gens qui sont hermétiques à ça. Voilà, faut être conscient de ce problème. De toute façon, nous en reparlerons quand le jeu va sortir, parce que j'espère bien le tester directement sur PC.
Et on parle de la sortie de Warframe sur iOS.
Ouais, qu'on a complètement zappé la semaine dernière car on avait déjà beaucoup trop de drogue à vous vendre.
Au moment, il faut arrêter aussi.
Voilà, Warframe, c'est une drogue que prennent certaines personnes depuis 11 ans maintenant. Donc je me suis dit qu'il pouvait attendre une semaine de plus, c'est pas très grave.
Ça l'a jamais pris sur moi, j'ai essayé plusieurs fois, mais non.
Non, ouais, mais c'est très particulier. Même moi, j'ai craqué. J'aurais même donné de l'argent à un moment. Je me suis dit, ouais, c'est vraiment joli. J'ai envie d'un jeu grindy comme ça. Je vais aller me faire plaisir. Il y a plein de... Voilà, Warframe, c'est un jeu extrêmement riche. Vous imaginez qu'un game as a service qui a 11 ans d'ancienneté, s'il est toujours là, ils ont rajouté 2-3 trucs en 11 ans. donc c'est très 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 riche. Bon, il y a des parties de l'arbre qui sont mortes. Il y a des branches du truc. C'est genre, ça existe. Ils l'ont pas enlevé du jeu, mais personne y touche. Donc c'est assez particulier de ce côté-là. Mais bon, en tout cas, le truc est très très riche. Et la version iOS, je me demandais un petit peu comment ils allaient faire tenir ça. Et ils ont vraiment, enfin la version mobile en l'occurrence, parce que je pense qu'Android, ça devrait pas tarder. Et là, la version est vraiment très très bien optimisée sur les devices un peu récents. On est à 60 images secondes, ça fonctionne très bien. En revanche, oui, vous allez avoir envie de mettre un pad sur votre téléphone très très vite, parce que les contrôles sur l'écran, non, c'est pas fait pour ça.
Ouais.
Donc je vous confirme que ce genre de titre qui n'est pas né sur mobile, c'est pas du Wild Rift, tu vois, c'est pas un jeu qui a été vraiment pensé pour être sur mobile. Mm. Donc du coup, vraiment, ça nécessite quand même un pad à mon sens pour pouvoir être joué tranquillement. La bonne nouvelle pour les gens qui sont vraiment accros et qui aiment bien rejoindre leurs potes, jouer régulièrement, faire l'émission, etc., c'est qu'évidemment, tout est cross-plateforme. Donc la gestion de votre compte, votre progression, quelle que soit la plateforme sur laquelle vous jouez, maintenant, tout est synchronisé.
Nice.
Donc on a l'air... Enfin, tu vois, des fois, on considère ça comme acquis, mais c'est vraiment un tour de force. Et l'équipe de dev de Warframe est très très forte. Les mecs font vraiment un taf mais super impressionnant, que ça soit côté évolution 3D du moteur par petites touches, etc., ou sur ce genre de truc qui est pas, à mon avis, la partie la plus fun à coder, tu vois. Mais c'est vraiment hyper bien foutu, donc bravo à eux. Et si vous êtes fan, vous pouvez aller dépoussiérer tous les tests de pads que vous avez jamais achetés pour vos téléphones pour pouvoir les emmener avec vous. À mon avis, ça marchera bien. Bon, cela dit, vous faites pas chier, hein. Un iPhone, ça marche très bien avec un pad Bluetooth standard que vous avez sur votre console ou voire sur votre PC.
Et puis plein de nouveaux jeux à la Xbox Partner Preview.
Oui, il y a eu un gros podcast avec plein d'infos sur l'avenir de la plateforme, blablabla. Et du coup, Microsoft continue de balancer des infos, mais cette fois sous forme de vidéo. Une vidéo de 30 minutes où il y avait plein d'annonces de jeux. Alors, je vous ai linké, comme d'habitude, sur ce genre de truc, la grosse news de Factor News, qui doivent être les seuls à être aussi stupides que nous, à pas chasser le clic et à faire un seul gros truc avec tout dedans.
Mais c'est pour ça qu'on les aime.
Et bah, exactement, c'est pour ça que les link à chaque fois, parce que les mecs, c'est exactement ce qu'on aurait fait sur Geekzone si on avait le temps d'écrire sur le site en ce moment. Mm-hmm. Vous avez toutes les bandes annonces, dont des trucs surprenants, j'ai envie de dire, genre The First Berserker Kazan, un jeu de chez Nexon. Okay. Bon, j'espère que ça sort en 2020. 2025 parce que le truc, là, globalement, vous allez lancer la bande-annonce et vous allez vous dire, bah, c'est bizarre, là, je pensais que j'avais suffisamment de bande passante pour lire une vidéo YouTube, c'est tout saccadé. C'est pas votre vidéo, c'est le jeu. Qui est vraiment la vidéo de démo fait pas envie. Tu sens que les mecs ils sont à la ramasse sur le framerate. Ils tentent des trucs hyper jolis en termes de DA, mais c'est un peu compliqué. Et pour un sous-like, ça risque d'être un souci. Mais en tout cas, il n'y a pas de date, donc j'imagine que voilà, tout ça va être réglé. C'est toujours bizarre de pas avoir un truc super chiadé dans une preview. Enfin, tu sais, quand tu veux présenter des jeux en disant voilà, ça va être extraordinaire et tout.
Ouais. Tu fais voilà. Plutôt rêver avec des trailers pré-rendus d'habitude.
Bah exactement. Eux, ils ont voulu faire du... Alors, c'est tout à leur honneur. Hein. Ils ont montré du in-game. Bah bravo. Mais maintenant, il va falloir bosser sur le modeur, les gars.
Oui, c'est ça.
Je vous confirme. Vous avez vraiment un paquet de jeux. Il y a des trucs qui sont très attendus, des trucs qui sont totalement OSEF dans les attendus, mais dont on a déjà parlé, qui surprendront donc personne. Vous avez du Frostpunk 2, par exemple. Mmh. Vous avez surtout le gros morceau de la présentation qui était à la fin, si je dis pas de bêtises. Qui était, alors, je vais essayer de dire le nom sans me planter. Kunitsugami. Merci Capcom. Hein. Path of the Goddess, qui est un titre vraiment bizarre. On en avait déjà parlé parce qu'ils avaient une vidéo d'introduction du jeu, un teaser, full 3D, qui était absolument incompréhensible l'été dernier, je crois. Enfin, je sais plus à quel moment ils avaient sorti ça. C'était super joli, mais tout le monde était en mode genre, d'accord, bah écoutez, la drogue était bonne, mais on n'a pas bien compris ce que c'était le jeu. Eh bien, on comprend pas tout non plus, là. Donc là, il y a des phases de gameplay, vous voyez plein de choses. On a compris que finalement, enfin, que globalement, ça a l'air de se découper en deux parties. Mm-hmm. On est dans un monde qui fait référence à toutes les divinités possibles japonisantes du moment, tu vois. Mm-hmm. Enfin, du moment, des quelques siècles passés, tu vois. Oui, ils en ont mis un paquet, là. Ils ont fait ça un peu à leur sauce, j'ai l'impression. Et ils ont découpé donc le gameplay dans une phase nuit, une phase jour, avec deux gameplays complètement différents. Ça a l'air assez intéressant. Et de ce que je comprends, il y a même des de gameplay, enfin, j'ai l'impression qu'il y a des trucs un peu sur le genre Tower Defense, tu vois. Mmh. Alors que t'as des phases vraiment jeu de baston de l'autre côté. Je sais pas du tout comment la mayonnaise va fonctionner. Mmh. On va voir ça assez bientôt, puisque normalement c'est prévu cette année sur PS5, Xbox Series et PC, mais il n'y a pas de date exacte si je ne dis pas de bêtises. On va suivre ça. En tout cas, ça a l'air super joli. La DA a l'air excessivement inventive. Quand je dis excessivement inventive, c'est qu'il y a des trucs, t'es là genre, ouais, monsieur, c'est chelou là ton truc quand même. C'est joli. Je sais pas ce que je regarde, mais voilà. Alors, on va pas se plaindre, hein, parce que je suis le premier à dire oui, voilà, Helldivers 2, ça pompe partout, c'est du déjà vu, dadada. Bon, il y a un moment, faut accepter les trucs nouveaux. Oui. Mais bon, si vous avez joué avec les pires armures de. Les pires, ou en tout cas les armures les plus marrantes de Warframe, dont on parlait il y a deux secondes, vous serez pas surpris par les designs chelous du truc, là. Ça fait plaisir quand les mecs prennent un peu des largesses, c'est quand même rigolo à regarder.
Oui, c'est clair.
Je vous laisse aller mater tout ça, la bande-annonce, en tout cas, bah, très intéressante et il dévoile pas tout, donc on se donne rendez-vous dans quelques semaines ou quelques mois pour en parler.
Allez, on passe du côté des apps, mais on reste quand même un peu côté gaming avec la mort d'un émulateur qu'on connaît bien pour Switch.
Eh ouais, Yuzu, salut, petit ange, parti trop tôt.
Oh oui.
Vous avez tous suivi ça, j'imagine, mais ouais. Nintendo est tombé avec sa grosse massue sur Yuzu, qui était donc un émulateur Switch qui avait le problème de fonctionnait trop bien et avec des jeux très modernes. Donc si vous vous rappelez, Zelda The Tears of Kingdom Teoteka était sorti, avait leaké avant la sortie officielle et on pouvait y jouer en fait sur émulateur quasiment une semaine ou 10 jours avant la version Switch, tu vois, enfin avant avant que le jeu arrive sur Switch, sa plateforme normale. Ça fait partie des trucs qui ont dû commencer à agacer Nintendo, qui a dû balancer ses équipes d'avocats, se rendre compte que Yuzu se tapait en plus l'outrecuidance d'être planqué derrière un Patreon qui a rapporté jusqu'à plus de 30 000 balles par mois. Donc forcément, tu gagnes de l'argent sur des licences Nintendo sans leur accord. Comme ils donnent jamais leur accord, tu me diras.
Oui.
Très rarement. Forcément, ça allait pas bien se passer. Et du coup, ils ont fait leur petit courrier habituel avec les gros avocats pas contents. Et ça a été très vite. C'est-à-dire que les mecs de Yuzu, ils ont pas fait genre « Oui, on va se battre, il faut la liberté à l'émulation et tout. » Les mecs, ils ont fait genre « Ok, c'est combien ?» Faut tout effacer, d'accord. Donc, ils ont tout delayed déjà, il n'y a plus rien sur GitHub. Ils ont accepté de payer 2,4 millions de dollars à Nintendo. Donc, faut les sortir, hein. Je pense qu'ils avaient quand même un peu d'argent.
C'est beau avoir un Patreon, ça
ouais,
fait mal.
J'ai l'air que le Patreon, là, du coup, les gars, j'espère qu'il avait bien rapporté parce que ça va être un peu cher, quoi. Et en plus, du coup, ils donnent à Nintendo tous les noms de domaine, tous les trucs qui étaient en rapport avec Yuzu deviennent propriété de Nintendo, en fait, pour pas qu'ils puissent les réutiliser ou les vendre, etc. Donc, à mon avis, ça a été effectivement très vite, mais qu'en plus, il y avait des gens dans l'équipe de Yuzu. Apparemment, qui bossait aussi sur Citra. Citra, c'est un émulateur très connu pour Nintendo 3DS. Donc, lui aussi, il a pris une balle. Donc là, tout ça, ça dégage. Nintendo s'est fendu d'un communiqué en disant, voilà, l'ordre est rétabli. Très bien, tout va bien. Si on était encore dans le Divers, je veux dire, la démocratie a vaincu avec sa bombe nucléaire.
Capitalisme est sauvé.
Voilà. Alors, je trouve ça très drôle. Il faut quand même qu'on en discute deux secondes. Ah. Mais la position de Nintendo sur les émulateurs, qui, dans ses déclarations légales, c'est vraiment... Mais c'est genre la peste, tu vois. Mm-hmm. L'émulation, c'est le mal incarné. Ça fait du mal aux gens.
C'est un peu un discours archaïque autour du piratage, j'ai l'impression.
Ah mais de fou, puisque globalement, évidemment, ce qui les emmerde, c'est pas l'émulation elle-même, c'est le fait qu'on puisse jouer à des jeux modernes instantanément sur d'autres plateformes où ils touchent rien, et que je crois que le TOTK, je ne dis pas de bêtises, c'est plus d'un... Il y a eu au total genre 10 millions de downloads, un truc comme ça, sur les différents sites. En tout cas, c'est eux, ils ont, en faisant des stats sur les chiffres qu'ils avaient, c'était autour de ça, tu vois. Si je ne dis pas de bêtises. Bon, bref, c'était énorme, donc forcément, ça les a énervés très fort. Mais la blague, c'est que soyez pas trop méchants avec les émulateurs, monsieur Nintendo. Vous continuez à faire de la thune tous les mois avec ça, puisque tu en as des émulateurs partout dans ton store. Comment vous pensez que les jeux Mega Drive ils tournent sur Switch, hein? Les vieux jeux Nintendo, comment ils tournent sur Switch? Tout ça, ça tourne avec des émulateurs. L'émulation fait partie du paysage officiel du jeu vidéo aujourd'hui.
De la conservation aussi,
oui. La conservation, c'est encore un autre truc, tu vois. Mais là, les mecs, ils te demandent une tonne de fric parce qu'ils les donnent pas à leur bordel. Hein. Et c'est pour des jeux qui ont été rentabilisés 500 milliards de fois déjà. Donc, je trouve quand même l'hypocrisie. Je dis pas que c'est mal et que... je dis pas que Yuzu, c'était... Il fallait les laisser vivre tranquille, machin. Je dis, quand vous faites le wording de ce genre de truc, soyez plus malins, les mecs. Parce que globalement, vous vous en servez aussi tous les jours et vous gagnez de l'argent avec. Donc là, vous êtes juste fâchés parce qu'il y a des gens qui ont fait des produits qui étaient vachement trop bien par rapport à ce que vous vouliez. Et puis, il y a un autre souci aussi, c'est que la Switch, il fallait mieux la protéger que ça, les mecs. Des consoles qui résistent un peu plus longtemps, il y en a plein. Mais c'est pas la force de Nintendo, on va dire. Eux, ils ont un peu des problèmes là-dessus. Donc globalement, c'est aussi une façon de s'assurer que vous aurez pas de problème. Parce que maintenant, Yuzu est mort, qu'est-ce qui va se passer? Il va se passer que le code, il était open source de toute façon. Alors, même s'il y avait les dernières versions qui étaient derrière le Patreon, le code lui-même et les gros trucs étaient directement accessibles sur GitHub. Donc, il y a plein de versions dans la nature. Et au passage, il y a déjà des concurrents qui existent depuis 1000 ans. Ouais. En plus, moi, Yuzu, c'était pas mon préféré. C'est même pas celui que j'utilisais, tu vois. Enfin, je l'utilisais de temps en temps.
Il y a Ryujinx aussi.
Ryujinx, il est toujours dans la nature. Il fonctionne bien. Donc là, les mecs sont en mode profil bas. Puis ils sont en mode genre, nous, on n'a jamais fait payer. On est gratuit. Et puis, on est au Brésil. Viens nous chercher. Parce que là, ce qui se passe, c'est que c'était une boîte identifiée aux US, si je dis pas de conneries en plus. Donc, Easy Target, c'était aux US, c'était dans un pays qui était, entre guillemets, facile d'accès pour les avocats de Nintendo. Pour Ryujinx, ça va pas être la même, si tu veux. Donc, globalement, il y a plein de mecs qui se disent, mais attendez, le code de Yuzu, nous, on va le refaire avec une autre équipe bien planquée ailleurs, avec des noms où vous allez mettre 10 000 ans pour savoir qui est vraiment derrière, et puis, ça va repartir comme en 40. Donc, on va voir comment ça se passe, mais en tout cas, pour celui-ci, c'est mort. Donc, si ça s'update pas, c'est normal, les gars, il n'y a plus de code, on va falloir chercher. Là où ça va être dangereux, et là, je vous le dis, faites attention, c'est une des raisons pour lesquelles j'en parle aujourd'hui, il va forcément donc y avoir des forks. Il va forcément y en avoir fait par des gens
pas très honnêtes,
voilà, avec des virus, des machins, des saloperies dans
des
le code.
Des trucs pour farmer des bitcoins.
Voilà. Surtout au prix du bitcoin en ce moment, ils vont se redécouvrir une passion pour la crypto, ces abrutis. Donc globalement, faites très attention quand vous allez récupérer des forks et vérifiez bien d'où ça vient, ce que ça fait, l'état de votre bacon après. Parce que je pense qu'on va avoir des trucs pas très jolis.
Allez, on reste dans les apps avec Claude 3. Oh. C'est mignon.
Oh, c'est Claude. Et c'est pas mignon comme nom d'application, Claude. Hey, Claude. Et Claude 3 est mieux que Claude 2, forcément. Alors évidemment, c'est tout pourri. Et c'est du ML encore, donc il va nous falloir un petit jingle, mon ami Fasque.
Allez, c'est parti. AI, generative AI, generative AI, generative AI, 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 AI,
AI. It uses AI to bring AI, 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 AI.
Ah, il y a des gens qui m'ont demandé de mettre des jingles. Cette semaine, j'ai un challenge qui vient de Mastodon. Je veux des jingles Jean-Pierre Caff et IA machin.
C'est parti.
Vous inquiétez pas, cette semaine, il y a de quoi faire. C'est limite, je suis obligé de choisir. Donc, pour Claude, qu'est-ce que c'est? C'est en fait le... C'est un concurrent de GPT-4, en fait, dont je parle parce qu'ils font des annonces qui me font beaucoup rire, les mecs. Donc, c'est les gars d'Anthropic, la société s'appelle Anthropic. Et là, ils se sont fendus d'une déclaration que c'est vraiment le meilleur moteur d'IA de la planète avec des fonctions presque humaines. Tout, 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 tout.
J'en peux plus d'entendre cet argumentaire.
C'est génial ou pas? Alors évidemment, c'est toujours du machine learning de merde, donc c'est toujours pas de l'IA. Et ensuite, c'est Claude, mon bon petit Claude Oyo. et il était très, très, très en retard en fait. Dire que les versions précédentes se sont toujours fait éclater par GPT. Du coup, il y a plein de gens qui disent ah oui, mais bon, quand tu annonces, comment tu fais pour annoncer que ton moteur est mieux que GPT-4 déjà, tu vois? Bah tu passes par des benchmarks. Et s'il y a bien un truc que toi et moi on sait depuis les quelques années qui sont des décennies maintenant, je vais pas te faire du mal, mais c'est ça qu'on a passé dans le milieu de la tech, du jeu vidéo, etc. C'est que les benchmarks, tu peux leur faire dire un peu ce que tu veux.
Ah bah oui, c'est le principe des chiffres.
Oui, mais c'est surtout quand c'est pas des chiffres.
Oui, en plus. Oui.
Parce que là, comment tu fais pour des moteurs d'IA de
presque humaine,
de machine learning, tu vois? Donc pour faire des trucs qui soient équivalents, pour voir comment ça marche et tout, c'est un bordel sans nom. Donc je vous ai linké un article très intéressant sur le sujet, puisque au-delà de l'annonce de la sortie de ce truc-là, les mecs d'Ars Technica se sont penchés justement sur cette problématique de comment tu fais pour comparer ces produits entre eux? C'est vite la merde et on n'a pas les outils pour l'instant, et tu peux vraiment un peu pipoter les trucs. Alors évidemment, il y a des chiffres, parce que tu as des chiffres sur le modèle lui-même de machine learning. Est-ce qu'il sait manipuler plus de mots, moins de mots, comment ça fonctionne, machin, le nombre de vecteurs qu'il peut, avec lesquels il peut jongler. Mais le résultat à la fin de la journée, entre guillemets, est-ce qu'il est réellement pertinent et comment ça se passe? Donc c'est un petit peu compliqué, c'est ce qu'ils expliquent dans leur article. Si vous êtes intéressé par le domaine, et en ce moment, c'est difficile de pas l'être, même vraiment il saoule, tu vois, pour se rencarder, c'est une très très bonne lecture.
Puis on reste dans les outils avec plutôt une bonne nouvelle, ça, pour le coup.
Oui, Microsoft, qu'on a marre que ça soit le bordel dans les menus des jeux vidéo.
Ils sont pas les seuls.
Voilà, donc ils sortent, ils ont annoncé un truc qui s'appelle DirectSR, qui est en fait un merge de DLSS, du DLSS de NVIDIA, le FSR d'AMD, le XESS d'Intel. Voilà, il faut que ça cesse, j'en ai marre, j'en peux plus. Qui sont en fait donc tous les moteurs d'upscaling des différentes cartes graphiques du marché. Alors évidemment, attention, ils fusionnent pas les techs, machin. Je me suis mal exprimé. Ils vont faire un truc qui permet d'avoir une API Windows qui permet de simplifier la vie des développeurs et la vie des joueurs. C'est-à-dire que au lieu d'avoir dans votre menu de jeu à terme 50 options entre le FSR, le machin, le bidule, il faut avoir fait des études pour pouvoir.
C'est ce que j'allais dire. Moi qui découvre les jeux maintenant d'avoir une vraie carte graphique, je vais dans les options et je me dis mais ok, alors je dois cliquer quoi? Je dois aller voir des tutos sur le net pour savoir exactement ce que je dois activer et ce que je ne dois pas activer.
C'est ça. Toi, t'étais passé du 640-480 au 800-600, c'était le seul problème.
Presque. C'était un peu ça, oui.
Et là, d'un coup, on te fait genre alors mon petit bonhomme, qu'est-ce que tu veux pour upgrader tes pixels? Donc c'est le bordel, ça va être présenté à la GDC de mars 2024. Et le but, voilà, je vous l'ai dit, c'est vraiment de simplifier la vie et des devs d'un côté et des joueurs de l'autre. Et pour une fois, merci Microsoft, parce que ça, ce truc-là, une fois que t'auras ça normalisé dans les menus des jeux, à mon avis, ça va nous faire plaisir. Comme quoi, des fois, la standardisation, ça a du bon.
Allez, on passe du côté de la culture et je voulais vous parler d'un monsieur que moi j'aime vraiment beaucoup, un compositeur américain qui est plutôt spécialisé dans l'ambient music. Et tu as vu, j'ai mis des petites notes dans la conduite cette fois-ci.
C'est un truc de fou. Les gens se rendent pas compte en fait. Petit aparté pour qu'on t'embouille quand même. Ça aura pris 287 épisodes pour que Fasque utilise notre notion de la fiche de la conduite. C'est fait pour ça. C'est pour qu'on travaille ensemble. Mais non, Fasque, il mettait ses notes dans son truc à lui que je ne voyais pas.
Ah oui, je sais pas pourquoi en plus.
287 épisodes et cette semaine, les amis, il a mis dans le doc principal. J'ai envie de chialer tellement c'est beau, quoi.
Allez. Donc, je voulais vous parler de Steve Roach, à ne pas confondre avec Steve Reich, qui est un autre compositeur important de la musique américaine, mais qui est plutôt orienté minimalisme. Steve Roach, c'est un monsieur qu'on pourrait qualifier de tête de proue de la musique contemporaine, et c'est un des papes de l'ambient music. C'est un Californien, si je dis pas de bêtises, il est installé sur la côte ouest, et c'est une grosse influence, en fait, dans le monde de la trance et du New Age depuis très très longtemps.
Ah oui, je vois ça.
Il a sorti en 84 un album qui est vraiment un milestone de l'ambient music, qui s'appelait Structure from Silence, et bah là en fait les 40 ans de l'album, si déjà, et donc voilà, il a été réédité dans une édition remasterisée avec 4 morceaux bonus. Alors vous allez me dire, oh, 4 morceaux bonus, pas beaucoup. Bon, il faut savoir qu'en fait cet album, à la base, c'est des longues plages, hein. L'album original, c'était donc un vinyle avec 3 plages en fait, hein, une plage de 16 minutes et une plage de 13 minutes, et sur la face B une plage de 28 minutes, et c'est vraiment des plages ambient, très très peu de, voire quasi jamais de rythmique en fait, c'est que des nappes, des mélanges, ça ressemble un peu à du Brian Eno de cette époque-là aussi. Et donc ils ont sorti une première édition pour le 30e anniversaire avec 2 morceaux supplémentaires, un morceau de 28 minutes et un morceau de 30 minutes, et là maintenant ils viennent de sortir donc une nouvelle édition remasterisée pour les 40 ans, avec deux nouveaux morceaux de 32 minutes et de 39 minutes, voilà, donc vous avez vraiment de quoi faire. Pourquoi je vous en parle? Parce que bah, moi déjà j'aime beaucoup l'ambient, c'est un genre que j'avais découvert dans les années 90 et auquel j'ai vraiment toujours accroché, et surtout aussi parce que c'est vraiment un très très chouette album à écouter quand vous bossez, comme il n'y a pas de voix, comme il n'y a pas de paroles en fait, et comme c'est vraiment des textures plus que des vraies compositions, enfin il y a des mélodies, hein, il y a des accords etc, mais ça passe tout seul en fait en fond, et c'est vraiment, comme c'est des longs morceaux en plus, tu peux lancer ça et te faire des grosses sessions de taf. Donc voilà, je voulais vous en parler. Si vous ne connaissez pas Steve Roach, c'est un bon point d'entrée je pense pour découvrir un peu ce que le monsieur fait, et si vous connaissiez déjà, bah voilà, Structures from Silence, donc avec 2 morceaux supplémentaires, donc plein de bonne musique à écouter pour travailler. Et puis ça tombe bien que je vous ai parlé d'ambient music pour se détendre tout ça, puisqu'on va attaquer le point un petit peu sensible du jour, c'est ce qui énerve beaucoup CAF, c'est la Commission européenne qui en veut à Apple.
Voilà, là, c'est moi j'aime bien, hein, tout va bien, mais là il faut qu'on explique. Alors moi ça me fatigue parce que c'est du travail pour nous les gars.
Hein. Uh-huh.
Du coup on va faire un truc très simple. Je ne vais pas vous détailler tous les changements qui sont imposés à Google, Amazon, Apple, bref, vous avez la liste des usual suspects. Hein.
Et déjà, si j'ai bien compris, c'est pas pour tout de suite, de toute façon. Puisque
alors, il y a
contesté,
des trucs qui sont pour tout de suite. Il y a des trucs qui sont pour tout de suite et il y a des trucs qui sont pour plus tard. Alors, il y a, donc, on en a déjà parlé en torréfaction, la date fatidique de la mise en place du DMA européen, et c'était là, cette semaine. Et du coup, nous avons eu plein de petites modifications chez nos différents amis des Big Tech, qui évidemment ne sont pas extrêmement satisfaits de plein de choses. Et à ma grande surprise, il y a plein de fois où je suis d'accord avec eux, en fait. Parce que mine de rien, quand tu imposes des sanctions à des boîtes comme ça, qui sont pas vraiment des sanctions, mais tu leur dis maintenant, je veux que ça marche comme ça, et que toi, en fait, tu fais pas de tech, tu sais pas de quoi tu parles, en fait, quand tu fais ce genre de décision, ça amène à des trucs un peu débiles, et surtout, tu laisses des petites sorties, des petites filouteries possibles, et ça devient vite la merde. Donc, globalement, cette semaine, il y a eu 2 milliards d'articles fait sur Apple, parce que c'est toujours plus facile de taper sur eux apparemment, alors que Google a fait aussi ses trucs, bref, c'est un sacré merdier. Et la presse américaine, ça les fait un peu marrer, parce qu'en plus ça les touche pas, tu vois. Donc ils regardent ce qui se passe de l'autre côté, mais parfois ils peuvent même pas tester, et puis parfois ils sont en mode genre, qu'est-ce qu'ils sont cons ces Européens, ou alors, ah c'est vachement bien, il faut qu'on fasse ça pour nos... Mais tu vois, ils sont un peu le cul entre deux chaises, parce que les Ricains auront aussi plein de choses, hein, qui sont dans les tuyaux sur certains aspects.
Ah bah si je dis pas de bêtises, le DOJ a pas mal de choses aussi à reprocher à Apple, visiblement, ils sont sur le point aussi de taper sur la table.
Ouais, enfin ils ont surtout commencé par Meta.
Oui, oui, enfin quand je dis Apple, c'est tout Big Tech. Hein, voilà,
c'est plutôt les GAFA en général. Apple, en fait, rapporte en plus tellement de thunes qu'à mon avis, c'est pas les premiers qui vont aller faire chier. Surtout que c'est les plus, on va dire, smooth, c'est les mecs qui font du vrai hardware, entre guillemets, tu vois. Donc globalement, c'est pas non plus les plus relous de l'histoire. Mais alors, on en est où? Alors, la Commission européenne versus Apple, c'était justement vachement mis en valeur cette semaine, puisqu'ils se sont bouffés une vraie amende, pour une fois, cela dit. Hein.
Les mecs sont largement au-dessus de ce qu'on avait envisagé, si je dis pas de conneries.
Ouais. Là, le mec, la Commission européenne a balancé une amende de 1,95 milliard de dollars. Je crois que c'est 1,8 milliard d'euros. Alors évidemment, c'est une amende que il est très probable qu'elle soit pas payée sous cette forme-là, ou pas payée du tout, ou peut-être qu'elle sera plus chère, puisque Apple va évidemment faire appel. Ils l'ont déjà annoncé. Et derrière, en fait, on se retrouve sur plein de points qui sont compliqués à expliquer, puisque c'est pourquoi il y a ce bordel à la base. C'est lié, en fait, à toute la partie politique de Apple qui empêcherait, en fait, les outils de streaming audio, donc les Spotify, Deezer et compagnie, de faire du business comme ils l'entendent sur la plateforme d'Apple. Donc, en gros, il y a des lois contre ce genre de pratiques, c'est-à-dire des lois où tu vas mettre en avant ton produit contre les produits tiers, en fait. Donc, ce qui est reproché à Apple, c'est de mettre en avant trop facilement Apple Music et de pas filer les mêmes droits ou les mêmes opportunités à un Spotify. La blague, c'est qu'en fait, quand tu regardes dans les faits comment ça s'est passé, il y a plein de trucs où tu te dis... Bon, déjà, on va pas vous le cacher, hein, Fasque et moi, on n'est pas des énormes fans de Spotify.
Non.
Donc, bon, globalement, on a du mal à être de leur côté, quoi qu'il arrive, mais on a aussi du mal d'être du côté d'Apple. On sait très bien ce qui est en train de se passer, comment ça fonctionne, on n'est pas débiles, hein. Mais bon, quand tu, effectivement, il y a, alors, Fasque me disait tout à l'heure en podcast, il y avait des trucs rigolos, c'est qu'effectivement, Apple a un peu joué sur le côté, oui, mais regardez Spotify, ils font du lobbying avec la Commission européenne, il y a eu 65 réunions des équipes suédoises avec la CE. Ouais. Clairement, on se fout de notre gueule et les mecs se sont mis d'accord pour nous mettre un couteau dans le dos. Ce qui est pas faux, mais Fasque me faisait remarquer qu'effectivement, oui, mais le lobbying chez Spotify, c'est quoi? $1 million, tu disais?
C'est $1 million chez Spotify. Apple était à 6,5 millions en 2021. Et je pense que c'était encore plus en 2022. Et en fait, ce qui est rigolo, c'est de constater qu'à la base, Apple, le lobbying, ils en faisaient pas beaucoup au niveau de la Commission européenne. Ils étaient à 3,5 millions de dollars en 2020. Et ils ont doublé littéralement en 2021, voilà, quand ils ont commencé à avoir des ennuis.
Bah oui, quand ils se sont aperçus.
Ce qui est logique.
Quand ils se sont aperçus qu'ils allaient se faire emmerder par des
nous, on va faire comme les autres. En fait, exactement. On va aller lobbyer.
En fait, c'est ça. C'est-à-dire que là, les gens se disent, vous voyez bien, Apple, c'est des méchants. Et en fait, ce que j'explique à plein de gens, c'est que les mecs sont en train de se faire emmerder par des mecs, ils le font déjà en fait, ils sont déjà dans le lobbying. Et si vous sortez de la tech et vous regardez comment ça se passe du côté du marché, de l'industrie laitière, de l'industrie de la viande, etc. Mais regardez pas les reportages sur le sujet, les amis. Hein. Vous allez péter un câble. L'Europe, ça va être un truc, vous allez pas du tout le voir de la même manière. C'est les bureaux de ce... je crois que c'est l'industrie laitière. Il y en a une, c'est à crever de rire, parce que les bureaux des lobbies, enfin les mecs qui font le lobbying pour le compte de ces gens-là, sont en face de la Commission européenne. Ils ont acheté l'immeuble, les mecs. Hein.
Ouais.
Donc, on est quand même sur des procédés qui sont... on est là pour défendre les gentils consommateurs. Non, vous êtes tous là pour faire le plus de fric possible et savoir comment ça va se passer. Puisque, à aucun moment, tous ces trucs-là sont là pour défendre vos droits. Attention, c'est là où, moi, ça me rend dingue. C'est qu'on a quand même un Spotify qui est complètement... leader sur son marché, ils ont quasiment 60% du marché du streaming, et les mecs sont en train de chialer en mode genre, on y est, regardez, ils nous empêchent de faire de la thune. Mais gars, regarde déjà comment tu fais, toi, ton marché. Regarde comment tu gères tes podcasts, etc. C'est quand même assez hallucinant de voir que les mecs essayent de se faire passer pour les gentils de l'histoire, alors que la réalité, comme pour Epic, c'est qu'ils ne veulent pas payer les frais de la plateforme. Personne ne les oblige à faire du business sur cette plateforme. Il se trouve qu'elle est très, qu'elle fonctionne, mais elle est même pas leader sur le marché, en fait, hein. Apple, en part de marché, c'est absolument pas les leaders. C'est aujourd'hui en Europe, Apple, je crois qu'on est quoi? Il faut vérifier les chiffres globaux, mais on est sur l'ensemble des marchés européens, c'est plus au nord, où là, ils doivent titiller les 50% par rapport à Android, en tout cas sur les plateformes mobiles. Mais c'est plus tu descends dans le sud et plus tu es vers les 10-20%, tu vois.
J'ai pas de chiffres récents, mais j'ai les chiffres de 2021 où effectivement Spotify est à 31% du marché, Apple à 15%, et le reste, c'est les Deezer, NetEase, YouTube Music, Tencent Music, Amazon de musique, etc.
Ouais, là, globalement, en Europe, le chiffre que j'ai, moi, sur Spotify, c'est 58% du marché.
Oui, là, je parlais au global, hein, donc c'est sur la planète entière. Hein.
Non, mais là, parce que je parlais de plateforme mobile, là, donc je parlais Android iOS, tu vois. Donc, globalement, aller dire que tu peux pas faire ton business parce que t'as l'acteur du marché qui, dans certains pays, a pas tant de parts de marché que ça, et que c'est de leur faute, je trouve ça un peu rigolo. Mais dans l'histoire, c'est pas parce que Spotify veut défendre vos droits, hein, c'est que Spotify veut juste votre thune, votre adresse mail direct pour pouvoir vous spammer les promos, et vous suivre à la trace pour pouvoir vous vendre de la pub le jour où ils ont envie de vendre de la pub, tu vois. Mmh. Je vous rappelle que le but de Spotify derrière, c'est d'avoir son propre store et de vendre des produits à l'intérieur, y compris des places de concert, etc. À aucun moment, le but du jeu, c'est de vous faire un abonnement pas cher et d'être gentil avec vous. Donc, voilà, on est sur une baston de gens qui sont de manière générale, dans leur façon d'aborder le business, tous détestables. Donc, j'ai pas vraiment de pitié pour qui que ce soit dans l'histoire. Et en plus, ils se mettent des balles entre eux. Là, la dernière en date, elle est très très drôle, c'est Epic, qui vient de se faire sucrer son compte Apple. Alors, en plein dans le bordel qu'on est en train de vous expliquer là, Apple, rien à foutre, ils ont supprimé le compte développeur d'Epic Suède qui était chargé de faire le store justement pour iOS. Et là, en fait, la problématique, elle va beaucoup plus loin que le DMA et toutes les lois que vous voulez, c'est qu'Epic a déjà planté Apple. C'est-à-dire que Epic avait, à la base, c'est les premiers qui ont fait un truc qui était illégal, qui était contraire aux engagements qu'ils avaient signés quand ils ont publié Fortnite sur le store Apple, et qui ont voulu passer outre les règles d'Apple. Mmh. Et ça, Apple, ils ont jamais pardonné. Et c'est dans le communiqué qui est sorti par Apple, je crois que c'est même aujourd'hui, hein. Aujourd'hui, on enregistre jeudi, comme d'habitude, pour ceux qui nous écoutent vendredi ou plus tard, c'est que globalement, les mecs, ils ont fait genre « Non, mais là, on vous connaît, vous, les gars. Oui. » Là, vous êtes en train de dire que « Oui, on va suivre les règles, mais premier contrat qu'on vous envoie, vous respectez pas le truc. Donc, nous, on est désolés, on veut pas travailler avec vous. » Et là, de toute façon, je veux dire, c'est leur choix. Ça reste leur plateforme. Ils ont aucune, obligation de bosser avec qui que ce soit au bout d'un moment. C'est un peu comme quand on vous vire de Geekzone. Hein. Des fois, vous méritez, les mecs. Bah, même si vous êtes sur le Patreon, vous ne devez rien.
Petit message personnel à l'attention de X et Y.
Ah ouais. Il y a des gens qui avaient des comptes, qui avaient 20 ans, qui ont pris des balles récemment, qui sont très tristes, mais on est désolé. Il y a un moment, les mecs, quand on a besoin de faire le ménage, il faut faire le ménage. Donc là, je pense que ça va être assez intéressant. Là où je suis un peu plus emmerdé pour les utilisateurs normaux qui sont à 10 000 km de tout ce bordel, c'est que maintenant, avec iOS 17.4, quand tu le lances, tu vas être obligé de choisir ton navigateur, par exemple. T'as un menu qui arrive, qui est un menu qui va te proposer en fonction de ton pays les 10 trucs les plus téléchargés dans l'année de ton pays, je crois. Donc la liste va changer, entre guillemets, elle est pas par ordre alphabétique à terme. Et là, le choix de cette liste, il me paraît un petit peu il est confusant pour les gens qui connaissent pas, tu vois, qui sont pas forcément en train de se dire oh bah tiens, très bien, je vais mettre ça. Alors déjà, ça va renforcer en plus le leadership de Google Chrome surtout. Ouais. Donc je vois pas l'intérêt, mais bon bref, vous pouvez toujours évidemment choisir Safari si vous voulez choisir Safari, mais en plus dans les trucs européens, Apple est censé pouvoir proposer la désinstallation de Safari dans iOS, ce qui n'est pas du tout prévu. C'est le même bordel que quand Microsoft avait dit...
Oui, tout à fait, avec son browser qui était Internet Explorer, qui faisait partie intégrante du système, en fait.
Voilà. Et Safari et toutes les web views que vous avez dans les applications dans iOS sont liées, en fait, à Safari et à la strat qui est derrière. Donc, c'est pas du tout prévu dans le système, donc ça fait bien, bien chier Apple qui doit programmer un truc. En revanche, là, c'est un truc qu'ils peuvent faire, je crois que c'est jusque dans 2025. Donc, à mon avis, c'est pas pour tout de suite, mais c'est surtout que derrière, je comprends pas trop si vous voulez commencer à obliger les gens à choisir leur navigateur, ce qui au passage passe au-dessus de la tête de quasiment tout le monde. Moi, je vois les clients avec qui je bosse, les mecs savent même pas sur quel navigateur ils sont. Du coup, pourquoi on choisit pas le mail? Pourquoi on choisit pas l'application météo? Pourquoi on choisit pas le reste? C'est pas important, le mail? Donc, je sais pas, ça me fatigue. Tu vois, le fait qu'on en revienne à ce genre de problématique, c'est quand même un peu chiant. Et puis à terme, je suis malheureusement d'accord avec Apple sur le fait que c'est eux qui sont quand même obligés, et ça fait partie de la plateforme, de valider toutes les applications. C'est eux qui vont continuer à vérifier les applications qui sont mises en vente, entre guillemets, sur les stores tiers. Ils vont se bouffer inévitablement les gens qui veulent se faire rembourser des applications. Oui, machin, il m'a arnaqué et tout. Bah ouais, mais c'est pas chez nous, donc tu te démerdes. Mais ça fait partie de l'expérience Apple, normalement, si t'as un problème sur le store, sur un truc, tu sais que tu as un point d'entrée, tu vois, quand tu as un souci. Donc là, ça va être un sacré merdier relativement vite. Il y a que deux stores tiers déjà annoncés. Donc bon, il y en a un, à mon avis, ça va bien se passer, puisque c'est MacPo qui annonce Setup, dont on a déjà parlé plein de fois, qui existe déjà. On pouvait déjà installer des applications iOS via Setup Mac, mais là, il y aura Setup directement dans iOS. Donc pour les gens qui sont abonnés, c'est une, voilà, c'est un très bon service. Il y a plein de trucs très 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 bien. Mais au terme, enfin voilà, globalement, ça va quand même être un sacré merdier. Et j'ai hâte de voir comment ça va se débroussailler, puisque il y a largement pas que Apple de toucher. Il y a Google qui a fait des modifs sur son moteur de recherche, sur la façon dont les trucs s'affichent, etc. Et globalement, tout le monde y va à reculons et je suis pas persuadé qu'on soit gagnant dans l'histoire à tous les niveaux. Même si je sais, hein, y en a plein qui sont là, oui, mais regardez, la plateforme elle est fermée. Ouais, ouais, mais c'était là, ça reste un avantage de la plateforme pour moi. Si vous êtes pas content, il y a des alternatives. C'est là où je suis pas d'accord avec le choix de dire bon bah c'est de leur faute. Si vraiment c'est un truc qui te rend, qui te file des boutons, bah achète un téléphone Android. Enfin, je veux dire, il y a où le problème quoi. Donc, nous avons encore de longs mois pour manger un popcorn en regardant comment ça se passe.
C'est clair que ça va durer un moment. Et puis, on continue de parler d'Apple, mais avec des nouveautés côté matos.
Ouais, ça va aller très vite. C'est juste qu'ils ont sorti les MacBook Air M3 13 et 15 pouces. Je vous ai linké les tests de chez Ars Technica et de chez Anantech. Bon, il n'y a pas de révolution majeure. Hein, c'est vraiment les mêmes bécanes avec des M3 à l'intérieur. Donc, qui apporte un gain en performance substantiel, même si c'est pas incroyable. Il est là, il est présent. Ça apporte surtout le décodage hardware de la V1, donc format vidéo qui est de plus en plus utilisé, ça c'est plutôt intéressant. Vous avez toujours cette machine d'entrée de gamme qui me hérisse, là tu vois, les vrais trucs d'Apple qui me hérissent, c'est ça. Hein. C'est pas la fermeture du store, c'est pas le fait d'avoir Wallet Garden, c'est quand les mecs te proposent des bécanes d'entrée de gamme avec 8Go de RAM et 256Go de SSD en 2024. Les gars, je les connais, vos marges, soyez gentils, mettez un peu plus et gardez le même prix, vous allez voir, vous n'allez pas mourir instantanément. Et pour ceux qui voulaient maxer les machines, sachez que vous pouvez monter jusqu'à 24Go de RAM et 2Tera sur les MacBook Air de ce genre. Et globalement, c'est des machines qui sont vraiment très bonnes. Enfin, moi, j'ai un M2 depuis un moment en 15 pouces, c'est vraiment une très très bonne bécane. Et là, ils ont rajouté également le Wi-Fi 6E en support, donc ça va aller encore plus vite, mais c'est pas du Wi-Fi 7. En revanche, même si vous avez un de Docas par exemple, le Wi-Fi qui est dedans fonctionne très très bien, ne soyez pas inquiets là-dessus.
Et puis on termine cette section tech et ce podcast avec, c'est quoi, c'est une nouvelle RAM?
Ouais, une nouvelle RAM, vite fait, elle a enfin été entérinée. Là, c'est la GDDR7 dont les spécifications sont complètes. Alors, tous les constructeurs sont prêts depuis très longtemps, en vrai, hein, c'est pas nouveau, on savait que ça arrivait, que c'était en développement depuis plusieurs années. Comme ces petites copines avant, je vous ai linké un article de Next qui explique tout ça, et je vous ai linké un article encore bien complet aussi de Anantech sur le sujet. En gros, le JDEC qui est chargé de s'occuper de tout ça, qui est donc une association qui date des années 40, si je dis pas de bêtises, c'est la Joint Electron Device Engineering Council. Donc qui gère en fait, il y a tous les constructeurs de la Terre dedans, il y a plus de 300 membres, vous trouverez absolument toutes les marques que vous connaissez. Du coup, c'est eux qui standardisent toutes nos petites barrettes de mémoire qu'on met dans nos ordinateurs, ou Nvidia va mettre dans ses cartes graphiques, AMD tout pareil. Globalement, on double la bande passante, il y a plein de petites nouveautés intéressantes. Il y en a certaines qui sont montées en épingle dans le communiqué de presse, qui est très très drôle, puisqu'en fait, on avait déjà mieux, ou en tout cas quasiment aussi bien, dans la GDDR 6X, qui était un format un peu bâtard, en attendant que celle-là arrive. Donc voilà, c'est pas hyper novateur sur certains trucs, mais en tout cas, sachez que si vous renouvelez vos plateformes dans les... je sais pas combien de temps ça va prendre là pour que ça atteigne vraiment le marché global, mais à mon avis, ça va pas être très très long, puisque même les constructeurs de mémoire annonçaient déjà fin 2023 être prêts au niveau des puces des barrettes qui vont avec. Donc je pense que tout ça va évoluer très très vite. Je vous laisse aller regarder la news que j'ai linkée, qui explique en plus toutes les améliorations depuis la GDDR5, en particulier chez Anantech. Il y a un petit graphique très intéressant sur le sujet, qui permet de comprendre pourquoi ça va plus vite assez facilement, sans lire des trucs un peu trop abscons.
Et c'est la fin de ce 287e épisode de Torréfaction. On remercie bien évidemment nos abonnés Patreon, sans qui tout cela ne serait pas possible. Patreon.com/geekzonefr, vous pouvez nous aider à partir d'un euro par mois. Et ça me fait penser d'ailleurs qu'on a un petit peu zappé de refaire un petit mémoristique. Il faudrait qu'on se cale un petit
peu. Ouais, celui où on avait dit qu'on en ferait un le week-end.
Exactement.
Ouais, ouais, je vois bien de duquel tu parles. Mais on a eu des week-ends compliqués.
Oui, des semaines compliquées aussi.
J'étais
c'est vrai.
Malade. Mais bon, c'est, là, il faut aussi que je monte mon bureau, fasse, tu le sais.
Ah oui, si j'aurais fait ça. Bravo, dis donc.
Eh ouais, non, mais vraiment, je suis en dessous de tout. Il y a des gens, en plus, qui viennent squatter chez moi bientôt. Enfin bon, bref, ça va être compliqué.
Je sais plus si on en avait parlé ici, mais on va faire aussi une spéciale pour la centième des clairvoyants. Et a priori, ça devrait être pas ce week-end-ci, mais le week-end prochain. Donc je vous tiens au courant aussi de ce côté-là. Donc voilà, ça sera une petite émission un peu spéciale en live sur Twitch où on partagera nos petites anecdotes quand même une centaine d'émissions, un peu plus parce qu'il y a eu des spéciales, mais ça, on va dire on va arrondir à 100.
Le temps passe.
Oui, ça fait 10 ans quand même déjà qu'on a commencé les clairvoyants, c'est pas rien.
Voilà. Ouch.
Bref, on va se quitter ici, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Torréfaction. D'ici là, passez une bonne fin de semaine et un bon week-end. Ciao.
Ouais, à plus, je retourne à mon crack. Des bisous, ciao.
Un podcast signé Faskill. Faskill.com.
Mais attends, c'est quoi le PIB ?
La fiscalité, ça fonctionne comment ?
La monnaie, ça représente quoi exactement ?
Toi, tu sais comment ça marche une banque ? La dette publique, est-ce que c'est vraiment un problème ?
Oubliez les crises financières. L'inflation, tu sais comment ça marche ? Les banques centrales, c'est quoi exactement ? Tu as des croissances, c'est la récession. Est-ce que la finance verte, c'est quoi exactement ?
Si vous aussi vous vous posez ce genre de questions, Mickaël Vincent vous donne rendez-vous dans l'Econocast pour décrypter en moins de 30 minutes les concepts de base de l'économie et du monde de la finance. De quoi, on l'espère, vous aider à mieux en comprendre les enjeux. L'Econocast, c'est tous les mois sur geekzone.fr.